Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. Capot Diamant et Bel Âge. Au programme, Québec, mon amour. Robert Wakaham, pilote. Des anglophones dans la toponymie. Et parrainage et violence conjugale. Bonne écoute.
Québec, mon amour, Robert Wakeham, pilot. Un texte de Mario Bélan, paru dans le magazine Capot Diamant, hiver 2022, le numéro 148. Le métier de peintre n'est pas bien compliqué. Une palette, des pinceaux et des tubes de couleur. Avec cela, quand on a quelque chose à dire, on tâche de le dire de son mieux. Robert W. Pilot, agent Chauvin, 1927. La carrière et l'œuvre de Robert W. Pilot, qualifié de « dernier des impressionnistes canadiens », sont bien connues. Natif de Saint-Jean, Terre-Neuve, en 1898, Robert W. Pilot, un artiste précoce, étudie d'abord à l'atelier de Maurice Cullen, le second époux de sa mère, puis suit des cours du soir avec Edmond Dionnet au Monument national à Montréal. Sa première exposition solo à la Galerie Johnson en 1915, il n'a pas encore 20 ans, connaît un succès certain. Pilot poursuit sa formation artistique 1915-1916, 1918-1920, à l'école de l'Art Association of Montreal, AAM, sous la direction de Cullen et de William Brimner. Il va s'enrôler dans l'armée durant les deux guerres mondiales, 1917-1918 et 1941-1944. Après avoir obtenu une bourse d'études de l'AAM à son retour à Montréal en 1919, c'est toutefois à Paris que le jeune peintre ira perfectionner son art pendant plus de deux ans, 1920-1922, à l'Académie Julian auprès de Jean-Paul Lawrence, l'un des professeurs les plus populaires auprès des Canadiens. Membre de la Société nationale des beaux-arts, il va aussi exposer au Salon de 1922 et séjourner, entre autres, en Bretagne. Peintre, graveur, illustrateur et muraliste, Robert W. Pilot, un paysagiste avant tout, s'attire, dès les années 1920, une reconnaissance critique et publique. Il participe régulièrement au Salon du printemps de l'AAM 1914-1967 et aux expositions annuelles de l'Académie royale des arts du Canada, ARAC, 1913-1966, dont il sera longtemps le plus jeune membre. En 1920, Pilot est l'un des rares artistes invités à l'exposition inaugurale du groupe des Sept, présentée à l'Art Gallery of Toronto. Les deux années suivantes, il figure aux manifestations annuelles du groupe du Beaver Hall à Montréal. Dans les années 1920, il réalise et présente dans diverses expositions une trentaine de ses eaux-fortes, aujourd'hui rares sur le marché, et fort recherché des collectionneurs, qui le range parmi les plus importants graveurs de son temps. De 1935 à 1940, il enseigne d'ailleurs la gravure à l'École des beaux-arts de Montréal. Il voyage et peint en Europe et en Afrique du Nord à quelques reprises. Représenté dès 1923 à Montréal par la Watson Art Galleries, puis, dans les années 1950 et 1960, par la Galerie Continentale et la Galerie Walter Klinkhoff, il est l'objet, tout comme à l'Arts Club, de nombreuses expositions personnelles qui remporteront un succès commercial. Membre de nombreuses associations artistiques, le peintre est récipiendaire de plusieurs prix et reconnaissances, dont le prix Jesse Dow de l'AAM à deux reprises, 1932 et 1934, ainsi que la Coronation Medal, 1953, décernée par le gouvernement du Canada. À la suite de son décès à Montréal, en 1967, après 50 ans de carrière, trois rétrospectives lui seront enfin consacrées. À la Kitchener-Waterloo Art Gallery, 1967, au Musée des beaux-arts de Montréal, 1968, Galerie nationale du Canada, Ottawa, et Art Gallery of Hamilton, 1969, ainsi qu'à la Galerie Walter Klinkhoff, 1988. Pilot est représenté aujourd'hui dans la plupart des musées d'art canadien, ainsi que dans de nombreux clubs, corporations et autres collections particulières. Le MNBAQ dénombre à lui seul 17 œuvres de l'artiste, soit 10 eaux-fortes et 7 peintures. Perpétuant la tradition impressionniste initiée par les James Wilson Morris, Marc-Aurel de Foy Suzor-Côté et Cullen, Pilot, un artiste solitaire et discret, tourne le dos à l'art moderne de son temps et aux audaces picturales de ses contemporains pour se concentrer sur la survivance d'une culture québécoise ou maritime, ancestrale et traditionnelle. Outre Québec, sa ville bien-aimée, le peintre prolifique va s'aventurer, à l'instar d'un Clarence Gagnon, dans les divers territoires pittoresques du Québec, particulièrement le long du Saint-Laurent, sans compter les provinces de l'Atlantique dont il est originaire. Peintre par excellence de la ville de Québec, tant en dessin et en gravure qu'en peinture, Robert W. Pilot va réaliser, avec affection et nostalgie, d'innombrables vues de la cité historique et romantique, sous tous ses angles, en toute saison et à toute heure du jour, et cela autant dans de larges panoramas que dans des scènes de la vie quotidienne. Selon ses dires, l'artiste fera 5 ou 6 voyages annuels en direction de la vieille capitale. En 1929, par exemple, il illustre de gravure l'ouvrage de Bloodwyn Davies, The Storied Streets of Quebec, publié par Louis Carrier. Aussi, il se trouve un bon nombre de ses vues de Québec dans les collections publiques et privées, ainsi que dans les ventes à l'encan. Dans une entrevue publiée dans le Canadian Art en 1961, Pilot déclarait son amour de la vieille capitale. « I always come back to Quebec. I must have made 60 sketching trips down there, and each time it seems to be the most paintable city. It seems to have a spell over me, which is brought out by the history embraced in the city itself, and also the remains of the very fine architecture and the beauty of the site itself. It and Paris are the 2 cities of the world I like the best. » C'était Québec, mon amour, Robert Wakeham Pilot, un texte de Mario Bellan, paru dans le magazine Cap au Diamant, Hiver 2022, le numéro 148. L'enracinement de la communauté anglophone dans la toponymie de Québec. Un texte de Alex Tremblay-Lamarche, paru dans le magazine Cap au Diamant, hiver 2022, le numéro 148. Lorsque l'on se promène dans les rues du Vieux-Québec, on est tout de suite frappé par la beauté de ces bâtiments dont bon nombre sont le fait d'architectes d'origine britannique, américaine ou canadienne-anglaise. On n'a qu'à penser au château Frontenac, à la cathédrale anglicane ou à l'édifice Price pour s'en convaincre. Si la communauté anglophone de Québec a su s'inscrire dans le paysage de la sorte, elle y est également arrivée en entrant dans la toponymie de la ville. La chaussée des Écossais, la terrasse Dufferin, la rue de la Couronne et le chemin des Quatre Bourgeois rappellent tous différents pans de l'histoire de la communauté anglophone de Québec. Afin de mieux comprendre l'enracinement de ces toponymes, un retour en arrière s'impose. Dès les lendemains de la conquête, les Britanniques commencent à inscrire leur marque dans la toponymie de Québec en renommant ou en traduisant le nom de certains lieux de la ville. Les faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch deviennent « The Suburb of St. John and St. Roch », tandis que le quai du Roi devient « The King's Yard ». Parallèlement, les autorités ouvrent de nouvelles rues dont les noms visent à marquer le changement de régime. En 1766, le chemin qu'on trace depuis la rue de Buade pour rejoindre la batterie du clergé, renommée au milieu du 19e siècle la rue Port-Dauphin, est ainsi nommée Prince Street en l'honneur du prince de Galles. Ce nom n'est d'ailleurs pas anodin, puisque le premier siècle qui suit la conquête est marqué par l'enracinement du pouvoir britannique dans le territoire. 7 des 9 gouverneurs en titre entre 1760 et 1830, Guy Carleton, Frederick Haldimand, Robert Prescott, James Henry Craig, George Prévost, Charles Lennox et George Ramsay voient une rue ou une porte être nommée en leur honneur à cette époque. Rares sont cependant ceux qui en sont témoins. À l'exception de James Henry Craig et Robert Prescott, qui voient respectivement une rue et une porte être nommés à leur nom au cours de leur mandat, les autres gouverneurs entrent plutôt dans la toponymie de la ville de 10 à 30 ans après la fin de leur mandat. L'expansion du quartier Saint-Roch au début du 19e siècle donne aussi l'occasion aux autorités coloniales d'y inscrire le pouvoir impérial en y ouvrant une rue du Roi, en l'honneur de Georges III, une rue de la Reine, en l'honneur de Sophie Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, son épouse, une rue du Prince-Édouard et une rue de la Couronne. Le recours à l'anglais plutôt qu'au français pour nommer les différentes rues qui s'ouvrent à cette époque sous un nom descriptif, Brewery Lane, Jail Road, Provision Store Lane, etc., témoigne également de la place que les autorités, les marchands et les cartographes donnent à la langue de Shakespeare dans l'espace public. Si l'inscription de ces toponymes dans la ville ne relève pas d'une volonté directe de montrer que Québec fait dorénavant partie de l'Empire britannique, comme c'est le cas des toponymes précédents, il n'en demeure pas moins que ces noms montrent que Québec est dorénavant une ville britannique. L'administration publique s'y fait dans la langue de Shakespeare, tandis que la majorité des jugements sont rendus en anglais et qu'une bonne partie de l'affichage se fait dans cette langue. Il est donc tout naturel que la ruelle tracée vers le milieu du 19e siècle, près de la brasserie McCollum, aujourd'hui la ruelle Légaré, prenne le nom de Brewery Lane et que la route qui mène à la prison des Plaines d'Abraham, à la même époque, aujourd'hui l'avenue Briand, soit baptisée Jail Road, vu la prédominance que prend l'anglais dans l'espace public. Parallèlement, les citoyens de Québec voient les patronymes de propriétaires fonciers anglophones s'inscrire également dans le territoire. Les rues Grant et Richardson, respectivement aujourd'hui les rues Monseigneur Gauvreau et De La Salle, ainsi que les rues Scott et Bell, apparaissent sur des cartes dans les deux premiers tiers du 19e siècle. La première reprend le nom de l'homme d'affaires, William Grant, qui a fait l'achat de pratiquement toutes les terres du Faubourg Saint-Roch en 1764 dans le but de les lotir. La seconde adopte le nom du propriétaire du terrain sur lequel elle fut tracée, l'homme d'affaires John Richardson. La troisième emprunte son nom au notaire William Fisher Scott, important propriétaire foncier du quartier Saint-Jean-Baptiste, qui prévoyait subdiviser en lots à bâtir le terrain qu'il possédait dans le quartier sur lequel fut aménagée la rue qui porte son nom. La quatrième rappelle la mémoire de l'homme d'affaires Matthew Bell, dont les entrepôts et les bureaux se trouvait au coin de la rue de la Barricade et de celle qui porte maintenant son nom. À compter du milieu du 19e siècle, d'autres noms reliés à la communauté anglophone émergent dans la toponymie à mesure que la ville prend de l'expansion. Certains honorent des notables de la ville, d'autres des grandes figures qu'on souhaite commémorer. En ce sens, les noms qui sont donnés aux nouvelles rues de Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et de la ville fortifiée reflètent l'activité économique de la ville, ses valeurs et son évolution démographique. Les marchands de bois, John Gilmore et Charles Henry Ross, voient chacun une côte être nommée en leur honneur, tandis que le constructeur de navires, Thomas Conrad Lee, entre dans la toponymie de la Pointe-aux-Lièvres vers 1858. De même, plusieurs héros britanniques, l'explorateur John Franklin, l'amiral Horatio Nelson, le général James Wolfe et l'astronome William Herschel, pour ne nommer que quelques exemples, entrent dans la toponymie de la ville dans la seconde moitié du 19e siècle. À compter des années 1870, c'est au tour de la communauté irlandaise d'y faire son entrée. Elle s'inscrit d'abord dans le territoire en honorant son saint patron et le premier chapelain de l'église Saint-Patrick, l'abbé Patrick McMahon, en 1876, puis en nommant des rues en l'honneur de leaders de la communauté irlandaise tels que Robert Baldwin Sullivan, Charles Joseph Allen et Charles Eustache Maguire. Depuis, de nombreux autres endroits de la capitale commémorent la présence de la communauté anglophone et, grâce aux efforts du Moran Center, ils sont mis de l'avant dans l'exposition Street Stories. C'était l'enracinement de la communauté anglophone dans la toponymie de Québec. Un texte de Alex Tremblay-Lamarche, paru dans le magazine Capot Diamant, hiver 2022, le numéro 148. Parrainage et violence conjugale. Un texte de Catherine Marquis-Harvey, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023. Que faire quand la situation vire mal entre les époux? On vous dit tout. Le parrainage entre époux intervient lorsque l'époux domicilié au Canada, le parrain, s'engage auprès du gouvernement à fournir à son époux, domicilié à l'étranger, le parrainé, les nécessités de base afin de combler ses besoins essentiels lors de son immigration au Canada. Cela dit, il peut arriver qu'à la suite de son arrivée au Canada, la personne parrainée subisse de la maltraitance ou soit négligée par son parrain. Dans un tel cas, la victime n'est pas tenue de rester dans cette relation malsaine pour conserver son statut au Canada. Auprès du gouvernement, la maltraitance et la négligence ont une définition large et peuvent inclure notamment la violence conjugale sous une forme psychologique, physique ou financière, ainsi qu'un manque à son obligation de combler les besoins essentiels. Si la personne parrainée est désormais un résident permanent, elle possède des droits et des libertés au Canada. Si elle a plutôt un statut temporaire, il lui est possible de demander la prolongation de celui-ci ou de le renouveler. Il n'est désormais plus nécessaire pour la personne parrainée d'être domiciliée avec son parrain pour conserver son statut de résident permanent, condition qui était auparavant obligatoire. À partir du moment où la demande de résidence permanente du parrainé est acceptée, le parrain est responsable du parrainé pour une période de 3 ans, et ce, même si un divorce est prononcé. Si le parrain retire son consentement au parrainage avant que la demande soit acceptée, le parrainé peut alors faire une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires. Dans un tel cas, l'agent de l'immigration doit obligatoirement prendre en compte la violence familiale que le parrainé a pu subir dans sa relation avec le parrain pour évaluer la demande. Le parrainé n'est jamais tenu de rester dans une situation de négligence ou de maltraitance, quelle qu'en soit la forme. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements à ce propos, notamment en ce qui concerne votre statut au Canada et la possibilité d'obtenir un permis sans frais pour les parrainés aux prises avec de la violence et qui doivent quitter leur époux, composez le 1 888 2 42-21-00. Vous pourrez alors sélectionner l'option pour les victimes de maltraitance et parler directement à un agent. L'information contenue dans le présent article est d'ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas de figure. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d'information juridique d'Informel au 450-443-8221 ou au 1-877-443-8221 sans frais ou consultez une personne ayant la profession d'avocat ou de notaire. C'était « Parrainage et violence conjugale », un texte de Catherine Marquis-Harvey, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.